projet et constitue aussi un dépassement historique de cette évolution historique objet-sujet que je vous ai retracé ce matin.
Voilà, ça y est, j'ai pu mettre en place. Donc oui, je vais vous parler de didactique scolaire de l'espagnol en France. Et comme le disait Christian, donc je l'interroge cette didactique scolaire tout à la fois comme enseignant du secondaire et comme formateur en IUFM. Alors, ce que je vais interroger, si vous voulez, par rapport à l'enseignement de l'espagnol en France, il lui arrive ce qui arrive à toutes les langues enseignées sous statut scolaire en ce moment en France. Il y a eu des changements importants au niveau programmatique, et notamment deux. Je vais surtout m'intéresser au lycée. Et en lycée, on peut noter deux changements importants. D'une part, l'adossement des programmes scolaires au cadre européen commun de référence pour les langues. Ce cadre européen, maintenant en France, il est mis en place, il structure les programmes, il organise les programmes du primaire jusqu'à la fin du lycée maintenant. Et puis, une deuxième série de réformes qui est intervenue concernant les programmes culturels sur lesquels j'aurai l'occasion de vous présenter un petit peu ce qu'il en est. Et donc, ce que je vais me demander maintenant, c'est si les changements qui sont intervenus justement dans ces programmes, et s'agissant en particulier du domaine culturel, est-ce qu'ils ont donné lieu véritablement à un changement ou à des changements dans les pratiques de classe et dans l'édition scolaire. Alors, l'enseignement de l'espagnol en France jouit d'une situation, si on veut, relativement confortable, puisque dans ce que j'appellerais, c'est peut-être un peu provocateur, mais enfin le marché didactique français, l'espagnol occupe un créneau, il le garde assez majoritairement, c'est celui de la deuxième langue. En France, les élèves dans le secondaire étudient deux langues vivantes étrangères, et l'espagnol s'est adjugé déjà depuis plusieurs décennies une position très majoritaire sur le créneau de la seconde langue. Précisément parce que l'anglais occupait, lui, encore plus majoritairement, d'ailleurs vous le voyez, celui de la première langue. Alors, sur ce deuxième créneau, justement, sans concurrent en capacité de le déloger, l'espagnol a maintenu ce que j'appellerais, pour reprendre des termes que nous entendons beaucoup depuis ce matin, une approche objet en didactique de la culture, c'est-à-dire culture cultivée, dans une double perspective, métaculturelle, c'est-à-dire en mettant beaucoup l'accent sur l'acquisition de connaissances sur la culture étrangère, et transculturelle à travers la défense de valeurs humanistes et républicaines. Mais en privilégiant aussi un dispositif pédagogico-didactique très centré sur la notion d'explication et très magistro-centré, très dirigé par l'enseignant, ce qui a tendance à beaucoup déposséder l'élève de ses capacités d'initiative justement au sein du dispositif. Il est très, très dépendant de la vision qu'a son professeur des objets et des méthodes de travail. Si on les voit, voilà deux couvertures de manuels qui permettent d'illustrer un petit peu ce marché didactique. Deux manuels sortis l'année dernière chez le même éditeur à l'attention du même public, c'est-à-dire les élèves de première technologique, technologie tertiaire ou industrielle. Et voilà l'image que cet éditeur donne de l'anglais et ce qu'il donne de l'espagnol. Une image d'une culture anglaise très très internationale, faisant référence soit à un fond culturel très ancien, mais aussi à des préoccupations beaucoup plus contemporaines, l'éthique sportive par exemple, ou au métissage, etc. Alors que l'espagnol se contente, se conforme, si vous voulez, à des images extrêmement stéréotypées. Si on en est là, c'est aussi parce que l'espagnol a une histoire très particulière, que je désigne sous un petit concept que Christian Puren m'a aidé à modéliser, celui d'ellipse méthodologique. La didactique de l'espagnol en France a fait l'impasse sur les méthodes audiovisuelles et sur l'approche communicative. Vous voyez au passage les dates de ces méthodologies. Elles correspondent à l'édition de textes officiels, notamment en France. Tant les méthodes audiovisuelles que l'approche communicative ont été évitées par les didacticiens et les promoteurs de l'enseignement de l'espagnol sous statut scolaire en France, parce que ces méthodologies n'étaient pas compatibles justement avec cette conception de culture cultivée qui prédominait dans notre tradition didactique. Et donc, au nom du maintien aussi d'un enseignement donc puisant ses racines dans la tradition humaniste et dans cette conception donc très patrimoniale de la culture, eh bien, voilà deux méthodologies dont, d'une certaine façon, nous nous sommes privés et qu'il faut redécouvrir maintenant, j'ai envie de dire, un petit peu à toute vitesse, parce que la perspective actionnelle est là, les nouveaux programmes sont là et il s'agit de s'adapter sous une forme qui pourrait être celle d'un certain atterrissage d'urgence, dirons-nous. Pas facile. Dans les années 80, je vais faire un petit point sur ce que pouvait être donc justement cette perspective de l'enseignement de l'espagnol très prédominante en m'appuyant sur les années 80, et puis ensuite je vais faire un saut jusqu'aux années 2000. Un manuel très emblématique, Ombre et Lumière. Nous renvoyons évidemment au monde de la corrida, encore une couverture de manuel avec la reproduction d'un tableau de Picabia et pour montrer justement comment sont privilégiées à travers un manuel comme celui-là les perspectives à la fois méta et transculturelles. Pour l'illustrer un petit peu plus, quelques extraits de la préface de ce manuel. Dans un premier temps, les auteurs du manuel mettent en évidence qu'ils ont choisi les documents parce que ces documents avaient une valeur culturelle ou documentaire. Il s'agit souvent de textes littéraires, hein, mais ils sont justement totalement instrumentalisés pour apporter des connaissances sur la culture du pays étranger. Voilà. Et d'autre part, il s'agit de textes dont, qui doivent aussi donner à dire, qui doivent aussi donner envie aux élèves de dire des choses. C'est pourquoi on insiste beaucoup aussi dans cette préface sur le fait qu'ils soient riches d'implications et d'interrogations de façon à donner envie aux élèves de dire des choses. Mais pour autant, il s'agit surtout de faire réagir les élèves, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas véritablement le temps de construire leur propre représentation de la réalité qui leur est présentée, puisqu'il faut qu'ils entrent dans le schéma de travail qu'imposent notamment les questions du professeur à travers une méthode interrogative extrêmement, extrêmement intense. Et le modèle de cette relation entre le professeur et les élèves et les objets de travail, c'est celui du commentaire dialogué auquel il est fait allusion à la fin de ce passage. Le commentaire dialogué, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce commentaire dialogué, qui est motivé finalement par la très bonne qualité culturelle du document qui est apporté, et encore une fois, c'est souvent un texte littéraire, il va mobiliser simultanément donc toutes les compétences en langue et en culture. L'élève étant fondamentalement donc invité à réagir, il manque de temps pour construire encore une fois ses propres représentations de la réalité qui lui est présentée. Un petit saut de quelques 20 ans. Voici un livre qui s'appelle Ensemble, Juntos, édité en 2007. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez, peut-être pas grand-chose, mais je vais vous expliquer. Nous sommes censés être à Cuba. C'est la publicité, c'est la campagne d'une ONG qui s'appelle Reporters sans frontières, qui fait un peu parler d'elle en ce moment, d'ailleurs. Et ce qui m'intéresse surtout... Alors, vous savez, cette illustration ressemble un petit peu à ces albums que vous connaissez peut-être, qui s'appellent « Où est Charlie ?» Where is Charlie? Charlie, c'est un petit bonhomme avec des grosses lunettes et un petit maillot à rayures, et il faut le chercher, il est tout perdu au milieu d'une foule. Donc là, on cherche pas Charlie, on cherche des journalistes. Il n'y en a pas, ils sont en prison, nous dit le document. Bon, que demande-t-on aux élèves? D'abord de décrire le document, ok, mais on leur demande surtout à la fin de tirer des conclusions sur la liberté de la presse à Cuba, alors que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est tirer des conclusions sur ce que fait cette ONG avec ce document. Voilà un des avatars, et à la limite là, on est à la limite de l'infaisable, mais de ce que peut signifier la toute confiance dans un seul document pour mobiliser toutes les compétences en même temps. Là, on arrive pratiquement à l'absurde. Et pourtant, les nouveaux programmes, dont ceux parus en 95 et parus en 2002, invitent à une approche beaucoup plus centrée sujet, justement, sur l'enseignement et apprentissage de la culture, avec l'émergence notamment de la notion de compétences culturelles. Les textes officiels de 1995 au collège mettent en évidence justement, à propos de compétences culturelles, la notion d'approche interculturelle et en plus bien centrée sur le champ d'expérience d'adolescents de 11 à 15 ans. Donc voilà une avancée qui était tout à fait notable, reprise et d'une certaine manière amplifiée par le rédacteur du texte officiel de 2002, puisque prenant en compte cette dimension, donc sujet dans l'approche de la culture, il invite à étayer cette compétence en fournissant aux élèves des éléments de méthodologie leur permettant de travailler efficacement sur les documents qui sont apportés. Par ailleurs, Et c'est le deuxième élément, c'est un élément de réforme donc, qui est tout à fait récent dans les programmes de lycée. Nous sommes invités à justement cette approche sujet du domaine culturel de l'enseignement apprentissage de l'espagnol, précisément à travers les nouveaux programmes qui s'imposent à toutes les langues et donc à l'espagnol tout autant qu'aux autres, avec pour chaque année du lycée une thématique qui se décline en quatre notions. Avec, comme on le voit, une entrée très, très transculturelle, justement, permettant de réinterroger des éléments d'histoire, de géographie ou d'autres choses, mais sous cette orientation très centrée donc, sur un certain nombre de valeurs. On voit, par exemple, émerger maintenant dans les manuels d'espagnol des unités où on réfléchit sur les questions environnementales, sur les addictions, sur la copie illégale de CD, sur... les phénomènes migratoires, les phénomènes d'acculturation diverses, enfin, il y a beaucoup de choses qui maintenant commencent à se développer de ce point de vue. Mais la question que je continue de me poser, il y a bien évidemment, pour l'espagnol comme pour toutes les autres langues, une conformité qui se met en place à ces nouveaux programmes pour le second cycle, mais moi ce que je crains, c'est qu'il reste traité, je dirais, dans une perspective objet, puisqu'elle a longtemps prévalu, cette perspective, pendant toutes ces années d'ellipse méthodologique. J'ai emprunté ce schéma à qui vous savez pour souligner que donc ce qui a prévalu majoritairement donc en espagnol c'est cette perspective, c'est la méthodologie active, donc avec cette entrée très très métaculturelle et donc une forte présence de l'enseignant. À quelles conditions est-ce que on peut voir évoluer le schéma de classe, parce que on peut avoir en espagnol un effet similaire à celui qui s'est produit lorsqu'on a diversifié les objets de travail. On a beaucoup diversifié les objets de travail, on est passé du texte littéraire à toutes sortes de supports, mais en gardant exactement la même méthode d'approche de ces supports. Si on change de programme culturel, est-ce que pour autant le schéma de classe va évoluer? Pour l'instant, les éditeurs prennent peu de risques. Voici un premier exemple, toujours Juntos, je ne sais pas que je lui en veuille particulièrement, mais bon. Voilà la première page de l'unité numéro 3 consacrée donc à une thématique tout à fait transculturelle, c'est la puissance des médias, des masses médias, avec une entrée, donc une thématique très transculturelle et une entrée par les cinq domaines langagiers justement du CECRL, écouter, lire, parler en continu, prendre part à une conversation et écrire. Et alors, dans chacun de ces petits chapeaux, il y a le listage de tous les documents qui sont censés mobiliser chacune de ces cinq compétences. Ce qui se passe, alors avec les pages, où on va les trouver. Ce qui se passe, c'est que par exemple, on voit des textes qui sont utilisés pour deux ou trois perspectives en même temps. Donc on est toujours dans ce schéma de cours d'intégration didactique maximale où on demande le maximum de choses à un seul support. Voici un autre manuel qui s'appelle Enlaces. Enlaces, ça veut dire lien. Lien humain ou lien logique ou lien internet, enfin bon, le mot est très polysémique, avec une autre thématique là aussi très transculturelle sur la mondialisation et les inégalités, globalización y desigualdades. Là encore, on a l'inventaire des documents qui vont être travaillés dans l'unité et on voit qu'ils sont d'abord répartis de manière, selon une répartition très très traditionnelle, Espagne d'un côté, Amérique latine de l'autre, comme au bon vieux temps, avec des documents pour lesquels les élèves seront essentiellement invités à faire le commentaire habituel. L'évolution néanmoins, c'est des pages qui s'appellent itinéraires culturels où les élèves doivent, à leur rythme et selon des modalités plus autonomes, recueillir eux-mêmes des informations justement pour prendre un petit peu de recul par rapport aux documents qu'on les invite à commenter. De ce point de vue, en ce qui concerne donc le traitement de la culture dans les manuels d'espagnol, je crois que, c'est pas parce que l'auteur est ici à côté de moi, mais c'est parce que je le pense, l'approche culturelle qui avait été celle des auteurs de Que Pasa, donc c'était Christian qui était directeur de collection, qui était fondée sur un modèle d'approche par les tâches. Je pense que cette perspective n'a pas encore été dépassée en édition scolaire en France pour l'espagnol. Les auteurs de cette collection avaient retenu donc avaient classé les documents supports pour qu'ils puissent privilégier chacun une sous-compétence de la compétence culturelle, et ils les avaient classés donc en trois catégories mises en progression. Premièrement, faire réagir les élèves à partir d'un certain nombre de documents, amorce. Ensuite, les inviter à s'informer à partir de documents plus objectifs. Et enfin, ces deux compétences-là étant posées, construites, eh bien, ils pouvaient se mettre à ce moment-là à comprendre des documents plus complexes. Je crois qu'on n'a pas encore pu dépasser ce modèle en édition scolaire de l'espagnol en France. Alors, pour autant, comment sont articulées les différentes perspectives culturelles dans les manuels actuels? Il y a un souvenir quand même de Que Pasa, une trace de Que Pasa à travers ce que sont les doubles pages d'ouverture de chaque unité des manuels. Elles invitent à réagir à la thématique culturelle qui constituera le corps de l'unité. Le corps de l'unité, lui, il a peu bougé, je trouve. Les documents continuent d'être utilisés pour des activités très traditionnelles, mais il faut quand même se souvenir que le baccalauréat, pour l'instant, a très peu changé. Donc les éditeurs, ils sont aussi au diapason de l'évolution institutionnelle. Et par contre, les éditeurs se permettent d'insérer des pages à la fin de l'unité, où là, on a des activités beaucoup plus variées, donc plus hétérogènes. Mais je crois qu'elles ne sont pas encore véritablement, ces différentes perspectives culturelles dans les manuels scolaires d'espagnol ne sont pas encore mises en rapport et encore moins mises en récursivité les unes par rapport aux autres. Moi, je rêve un petit peu et je me demande si on pourrait organiser les manuels un jour, si chaque unité des manuels pourrait être organisée sous la forme du scénario d'apprentissage action que j'emprunte à Claire Bourguignon. Imaginons que les élèves, en s'appropriant un domaine du programme culturel, soient investis d'une mission à remplir avec des réalisations diverses. Il leur faudrait d'abord collecter, trier les documents. Il y aurait trop de documents dans l'unité par rapport à ce qu'ils ont à faire. Peut-être qu'il faudrait qu'ils ajoutent des documents qui n'y figurent pas. Ils auraient ensuite des tâches de taille diverses à accomplir pour se préparer et afin de pouvoir réaliser des tâches communicatives qui seraient évidemment en complet rapport avec cette mission. On aurait à ce moment-là une dynamique tout à fait différente qui pourrait prévaloir dans l'organisation des unités des manuels. Une autre perspective possible, peut-être, c'est celle qui reprend un petit peu des éléments qu'Émilie évoquait tout à l'heure, inviter les élèves à participer à un projet culturel. Par exemple, profiter d'un événement culturel ou créer un événement culturel, donner lieu à un événement culturel. Évidemment, quand on dit culture, d'abord, ça, pour un professeur d'espagnol, dans sa culture professionnelle, c'est expliquer des choses, acquérir des connaissances culturelles. Si on en reste là, par exemple, aller voir une exposition de peinture, eh bien, ça va être apprendre des choses sur le peintre, point. Supposons par contre que le peintre soit là, bon, alors il faut le rencontrer. Deuxième solution, il va falloir apprendre à parler à un peintre. Bien. Mais si on fait tout ça un projet, alors à ce moment-là, tout se met en boucle. Et il faut se mettre d'accord pour se rendre prêt au jour J pour rencontrer ce peintre, parler avec lui. Du coup, parler avec lui, ça suppose qu'on connaisse un minimum de choses sur ce qu'il a réalisé. Et du coup, expliquer, acquérir des connaissances n'est plus un but en soi, mais fonction d'un projet, dynamisé par un projet. Ça peut même aider à converser avec ce monsieur. C'est une expérience que j'ai pu faire, par exemple, avec la visite d'une exposition du peintre Hermann Brown Vega, un peintre péruvien qui avait fait une exposition à Angers. Et on retrouve à ce moment-là un dispositif qui est celui de la boucle récursive entre objet, sujet et projet. C'est-à-dire que les objets à étudier ne sont pas étudiés pour eux-mêmes. Leur étude est finalisée précisément parce qu'il y a un projet. Ce projet, il est pris en charge par des sujets qui travaillent ensemble et qui se sont justement responsabilisés pour mener à bien un certain nombre de tâches. Et tout est redynamisé par cette problématique du projet. Si en espagnol les activités de classe, notamment donc dans le domaine de l'enseignement, apprentissage de la culture, étaient organisées selon une boucle de ce type, sans pour autant qu'il s'agisse de gros dispositifs très lourds, mais je crois qu'il y aurait là pour la tradition didactique de l'espagnol en France une occasion de se complexifier sans rien renier de ce qu'elle a été, sans rien renier de son histoire singulière, puisqu'on retrouve, me semble-t-il, dans ce dispositif toutes les perspectives auxquelles elle a tenu. D'abord, cette marque de fabrique très langue de culture, on la retrouve évidemment parce que les objets peuvent toujours être de très haute qualité culturelle. On ne voit pas pourquoi il faudrait y renoncer. Simplement, il s'agirait d'y insérer une perspective davantage interculturelle pour que les élèves s'intéressent à la culture dans une autre dynamique et à travers un projet qui leur apprenne à travailler ensemble. Je crois que c'est une occasion pour la tradition didactique de l'espagnol de tout à la fois revendiquer son histoire singulière et en même temps de savoir la dépasser. Merci beaucoup.
Bien, merci à Pascal pour un exposé dense, mais qui se suivait de façon relativement claire et linéaire, et pour avoir respecté aussi les temps, ce qui fait que nous avons maintenant presque 10 minutes, 8 minutes, pour des échanges sur cet exposé. Vous avez la parole et le micro dès que vous le voulez, pour la postérité.
Oui, moi j'ai trouvé effectivement très intéressant ce type de montage, mais je reste sur ma faim. Évidemment, on n'avait pas beaucoup le temps de tout présenter, mais je suis en train de me dire, tout ça c'est des principes, mais je ne vois pas trop comment en classe ça se traduit en termes concrets, parce que là il y a des objectifs, il y a quand même le rythme scolaire, il y a des moments d'évaluation, il y a le temps aussi qui est un facteur très, très contraignant pour nous. Oui, voilà. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça implique en termes d'apprentissage d'une langue étrangère, quoi ?
C'est vrai que la pédagogie du projet, c'est extrêmement chronophage, et surtout en enseignement scolaire, où on voit les élèves 2 à 3 fois par semaine, pas plus. Donc ça, c'est terrible, effectivement. Oui. Mais c'est justement ce qui fait aussi hésiter beaucoup les enseignants, alors tant que le baccalauréat évolue peu, à se lancer dans des projets de ce type. Parce que justement, le temps est là. Il faut vraiment arriver à, comme on dit, boucler le programme. Je crois qu'on peut scénariser l'activité scolaire des élèves, on peut scénariser les activités de classe sans pour autant que ça donne lieu à des projets énormes. Poser comme point d'arrivée une acquisition dont il faudra faire preuve dans, 6 heures, je crois que c'est jouable. Et poser les termes comme ça d'un contrat qui n'est pas nécessairement l'acquisition d'une foultitude de connaissances culturelles. Et je crois qu'à ce moment-là, ça peut responsabiliser des élèves. Alors, faut-il qu'ils se responsabilisent en grand groupe ? Pas forcément non plus. Ça peut être un petit groupe de 3. Et du coup, on peut peut-être jouer du point de vue de la gestion de classe sur des paramètres comme ça. Le nombre d'élèves, des projets plus limités. Mais toujours avoir cette notion de point d'arrivée, de tâche finale, qui, je crois, est quelque chose qui a beaucoup manqué aux élèves en espagnol. Ils obéissaient à leur professeur, ils voulaient bien faire ce qui lui était demandé, sans pour autant voir vers où on les emmenait. Ça, si ce point d'arrivée, on le met souvent en perspective, à mon avis, peut-être qu'on est gagnant en termes de temps, justement.
Même si votre exposé a été très clair, j'ai quelques doutes concernant l'aspect méthodologique je voudrais vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez fait l'analyse des manuels, mais est-ce que vous avez aussi, mené un dispositif de recherche par rapport au scénario ? Est-ce que vous avez développé des scénarios pédagogiques ? Est-ce que vous avez observé ces scénarios pédagogiques que vous venez de présenter, les scénarios ? Par rapport au scénario
oui.
Et par rapport, disons, au projet. Est-ce que vous avez intégré en tant que dispositif de recherche ?
Oui, dispositif de recherche et aussi dispositif du point de vue professionnel. À l'UFM des Pays de la Loire, on est en train de développer une interface, un outil multimédia qui s'appelle ScénariLang, où on veut à la fois en faire un outil de formation et un outil d'auto-apprentissage pour soit des étudiants, soit des professeurs stagiaires, soit d'autres usagers qui voudraient se documenter ou se s'outiller sur la mise en place d'un projet avec tel ou tel public ou pouvoir apprendre en auto-apprentissage quelque chose de précis. Donc ça, du point de vue de mon travail de formateur d'IUFM, je suis un petit peu impliqué là-dedans. Expérimenter le scénario, je l'ai un tout petit peu, mais c'est vrai que je l'ai juste montré de façon très abstraite. J'ai expérimenté ça très très concrètement avec une classe qui a rencontré effectivement un peintre venant présenter plusieurs de ses tableaux, et on a scénarisé tout ça, c'est-à-dire que les élèves se sont responsabilisés par rapport au jour J où on devait rencontrer ce peintre. Il fallait ce jour-là qu'on soit capable d'échanger convenablement avec lui, et j'avais demandé en particulier aux élèves d'apporter des objets. Ils se sont beaucoup documentés et ils ont apporté le fruit de leur réflexion pour non pas me le soumettre à moi, parce que justement dans ce type de projet, c'est aussi une dimension que j'ai oublié d'illustrer. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est l'effacement de l'enseignant par rapport à ça, parce qu'il s'efface derrière le projet. Et du coup, moi, je n'étais plus que régulateur de ça, régulateur de la qualité de ce qu'il pouvait présenter à ce peintre, qu'on allait tout de même pas décevoir. Mais par contre, je n'étais pas juge de par exemple, de l'interprétation que les élèves auraient faite de ces tableaux. Ça, justement, ça lui était confié à lui. Et du point de vue de tout ce que ça déclenche chez les élèves, je n'ai constaté que des effets positifs.
Mais est-ce que vous avez, je peux poser la question, est-ce que vous avez comparé les effets d'un dispositif de ce type avec un autre dispositif de type traditionnel ou autre, emprunté aux méthodes que vous avez utilisées
Intuitivement, j'étais sûr que ce serait mieux.
C'était plutôt au niveau de l'intervention.
Intuitivement, j'étais tellement sûr que ce serait mieux. En fait, j'étais un enseignant d'espagnol un peu fatigué des méthodes habituelles. Donc, du coup, je me suis jeté dans ce projet avec la foi du charbonnier. Enfin, j'étais sûr que ça marcherait mieux. Mais donc, du coup, j'ai pas comparé. Enfin, du point de vue, je me suis pas donné d'outil de comparaison. C'est vrai. Cela étant, si juste un outil quand même, mais bon. Qui vaut ce qu'il vaut, j'ai sondé les élèves après coup. Et leurs opinions, justement, sont extrêmement positives, alors qu'en réalité, pendant le déroulement du projet, il y a eu plein de petits incidents, c'était pas facile, ils n'y arrivaient pas toujours, ils se décourageaient. Et dans tous les petits écrits évaluatifs qu'ils m'ont rendus, je leur avais posé trois questions. Qu'avez-vous appris, que retenez-vous et qu'avez-vous vécu ? Et à chaque fois, c'était toujours extrêmement, extrêmement positif. Ils avaient complètement éludé et oublié les moments de découragement et de difficulté. C'est pour ça que je crois que c'est vraiment très, très dynamisant.
Le surcroît de motivation de l'enseignant dont il est témoin ici, et ce qu'il dit du surcroît de motivation des élèves, étant donné l'importance de la motivation, l'effet direct sur l'enseignement, je crois que ce sont des paramètres qualitatifs, mais dont on peut raisonnablement penser quand même qu'ils ont des effets positifs. Une évaluation technique de type compétence langagière à la fin, il y a tellement de paramètres en jeu, me semble-t-il, que de toute façon, ces comparaisons-là, ces évaluations comparatives ne peuvent pas véritablement donner lieu à quelque chose de convaincant.
Il y a quand même des traces du processus qui peuvent être faites par rapport à l'analyse du discours de la classe, des interactions d'un point de vue qualitatif, d'un point de vue des notions, même au niveau du temps de parole, par exemple, par chaque étudiant ou par chaque apprenant, je crois qu'il y a quand même des choses, des effets, des traces, des marques extérieures d'apprentissage qui peuvent être d'une certaine façon analysées dans un dispositif traditionnel et dans les autres dispositifs. Parce que je crois qu'il y a des effets, disons, au niveau des implications des différents dispositifs communicatifs qui sont menés en classe, qui peuvent être approfondis et peut-être aller un peu plus loin des motivations, des représentations, ce que les enfants pensent sur, mais au niveau, qu'est-ce qui a changé au niveau de la communication, par exemple, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, oui, même oui. Relatif.
Il y a des études à faire, oui. Bon, c'est pareil, la même remarque que tout à l'heure, vous connaissez Pascal maintenant, vous savez qu'il sera là jusqu'à samedi midi, donc vous pouvez l'attraper dans un couloir et lui demander des renseignements complémentaires. Voilà, on va passer à la dernière intervention.